Bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast tout tennis, début de Wimbledon. On va regarder ce qui va s'en venir pour nos Canadiens et on va surveiller les matchs de premier tour intéressants. Primeur de Sur la ligne, Caroline Wozniacki revient au jeu et c'est à Montréal que ça se fera. On en parle avec Valérie Tétrault, Nicolas Richard. Bonjour, Hugues Léger. Bonjour, les gars. Êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti.
Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et qu'on est diffusé à BPM Sport également. On est le radio podcast officiel de l'Omnium et ça approche à grands pas. Au Parc Jarry, Hugues, est-ce que tu commences à le sentir là? Est-ce que ça commence à se mettre en branle un peu
les préparatifs? Ça commence à s'activer dans les coursives et sur les terrains pour mettre ce site temporaire sous son plus beau jour. Et moi, chaque année, ça m'impressionne à quel point le stade IGA est transformé pendant l'événement. C'est un des plus beaux sites au monde, je dirais, pour un événement d'une semaine ou 10 jours, bientôt 2 jours, on va en parler plus tard. Mais oui, ça commence à bouger. Là, on voit que les préparatifs vont bon train.
Content d'entendre ça. Bonne fête du Canada à tous les Canadiens. Petite pensée aussi pour ceux qui ont déménagé dans les derniers jours et aussi une pensée plus importante pour ceux qui n'ont toujours pas de logement. On est avec vous si jamais vous n'avez pas un toit. Encore, on a une petite pensée pour vous. Nicolas Richard, toi, tu as un toit, un tout nouveau condo. Comment te portes-tu à l'intérieur de ta nouvelle maison?
Ça va très bien, de retour de vacances, les gars. J'ai hâte de parler de tennis. Wimbledon commence, on le sait, c'est le plus beau tournoi majeur. Ça, il n'y a pas de doute. On peut en débattre, mais pour moi, c'est l'ultime récompense, c'est l'ultime tournoi. À chaque saison, c'est aussi un peu le début de l'été, hein, fait que Wimbledon est assez spécial. D'autant plus que cette année, on y reviendra, là, ça risque d'être assez palpitant.
Ah ben Écoute, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis au moins, ce sera la dernière fois là, qu'on aura les vestiges de cette année un peu bizarre l'année passée qu'il y a eu. Là, on va revenir à la régulière déjà. Ce sera intéressant qu'on puisse mettre ça derrière nous d'ici 2 semaines. Messieurs, parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. On a beaucoup de choses à parler parce que, bon, c'est le début de Wimbledon. Il y a déjà des matchs qui sont en cours, des matchs de premier tour. J'imagine que vous avez fait vos tableaux. On va faire l'analyse de ce qui est à venir pour nos Canadiens. Ce début de tournoi-là, on va regarder les tableaux et les matchs de premier tour. Je vous propose qu'on commence par Milos Raonic qui affronte Novak, mais pas celui que vous pensez. Il affronte Denis Novak. Alors, c'est quand même intéressant parce que c'est un match presque prenable là, si on se fie aux résultats de la semaine passée pour Milos Raonic. Et quand on regarde son tableau, on ne sait pas trop dans quel état il est, mais c'est intéressant parce qu'il a quand même un tableau peut-être prenable pour les premiers tours. Hugues Léger, je ne sais pas, avant qu'on regarde les adversaires, tu t'attends à quoi de Milos dans ce Wimbledon?
Ben, tout d'abord, comme Nico, moi aussi, c'est une période de l'année particulière. C'est comme notre Noël un peu, là. C'est l'événement qu'on marque au calendrier au All England Lawn Tennis and Croquet Club. Je tiens à le redire, il s'ajoute du croquet aussi au All England Club. Un tableau de 128 avec 16 qualifiés, 8 wildcards laissés passer qui sont invités. Le plus vieux tournoi du monde, 1868, la première édition. Comme le disait Nico, c'est le tournoi de tous les tournois. C'est lui qu'on veut gagner. C'est le prix ultime du tennis, évidemment, le trophée de Wimbledon. Année avec Djokovic qui peut rattraper, je n'étais pas certain, j'ai vérifié ce matin, il rattrape Federer avec 8 titres à Wimbledon si jamais il l'emporte, en plus d'aller à son 24e Grand Chelem qui le mettrait, hommes et femmes confondus, maintenant au niveau des stats, comme joueur le plus titré. Rattrape Margaret Court si jamais ça arrive. Donc, voilà pour le plus grand tournoi. Maintenant, Milos Raonic, point d'interrogation. Après un beau retour il y a 2 semaines, il s'est retiré aussi rapidement qu'il était revenu. Donc, il n'a pas pu faire le Queens, blessure à l'épaule. Mais là, il est là cette semaine. Je ne sais pas trop quoi répondre, Alex. On n'a pas beaucoup de repères pour dire comment va Miloš, mais s'il va à peu près bien, c'est un joueur que les gars ne voudront pas affronter. C'est le joueur, le template parfait, le format parfait pour Wimbledon, service, volley. Il est en forme physiquement, on l'a dit, il a maigri, donc il va bien bouger, c'est moins un problème. Mais j'ai de la difficulté à faire une prédiction pour Miloš.
Nico, est-ce que tu es dans le même, j'allais dire néant, c'est peut-être pas le bon terme, est-ce que tu as des doutes par rapport à Miloš? C'est peut-être plus ça la façon de le dire.
Il faut avoir des doutes compte tenu de son historique et du fait de qu'il a été absent pendant de longs mois. Néanmoins, ce pourquoi je me réjouis, c'est que le gazon, c'est sa surface.
Exact.
C'est le genre de surface sur laquelle il est à l'aise, il se sent confortable. C'est sur le gazon qu'il a connu le plus de succès, les gars, souvenez-vous. Alors, je me dis que si son service fonctionne, s'il est en jambes, Hugues l'a dit, il semble être plus en forme que jamais. Ouais. Pourquoi pas? Je ne pense pas ici à un quart de finale ou une demi-finale, mais une deuxième semaine, si le service fonctionne et qu'il est en jambes, pourquoi pas? Il a l'expérience, il a ce qu'il faut dans son jeu, sur gazon, pour passer quelques adversaires peut-être surprenants. Mais oui, j'entrevois une bonne semaine, disons-le comme ça, pour Miloš. Mais je pense qu'il faut quand même réduire nos attentes, les gars, parce que c'est ça. Avec ce qu'il a connu au cours des derniers mois, ça n'a pas été simple. Alors, un retour tranquille pour Miloš, je pense.
Mais de la façon dont il a amorcé son retour au jeu avec une victoire qui faisait du sens quand même pour Miloš Raonic, on sait qu'il peut gagner peut-être quelques tours, on verra. Là, c'est Denis Novak au premier tour qui est 159e mondial, c'est prenable. Il l'a déjà battu d'ailleurs, c'était à Wimbledon dans la seule confrontation qu'ils ont fait un contre l'autre. C'était en juillet 2018, comme je disais, à Wimbledon. Alors, peut-être que, on peut arriver avec un peu de confiance maintenant. Bon, est-ce que Miloš, c'est le même joueur qu'il était en 2018? Assurément pas, ça c'est certain. Et quand on regarde le tableau un peu plus loin, tu te dis, il y a un Cerundolo et un Tommy Paul, ça pourrait être prenable avec un Miloš Raonic en santé, sauf que ce sont deux gars qui viennent de s'affronter en finale à Eastbourne.
Oui.
C'est peut-être pas la meilleure des nouvelles, et après ça, ça se compliquerait d'une manière ou d'une autre là, pour Miloš Raonic, parce que ce serait possiblement un Medvedev qu'il aurait dans les pattes s'il fallait qu'il fasse un quatrième tour. S'il fallait qu'il se rende déjà au quatrième tour, ça serait mission accomplie. Mais je pense que s'il passe simplement le premier tour, on pourra dire mission accomplie. D'accord ou pas, les boys? Hein?
Complètement.
Oui, je pense qu'un premier tour, ça sera déjà bien. Je pense que ses attentes doivent être mesurées. Encore une fois, il faut avoir des matchs sous la ceinture quand on arrive dans un grand chelem comme Wimbledon. Tout le monde est affûté, tout le monde est affamé. Il y a des gros prize money, il y a des gros points à aller chercher cette année. Enfin, les points sont de retour à Wimbledon. On en parlera un petit peu plus tard. La commande est quand même grosse pour Miloš.
Mais quand même, je serais curieux de savoir quelles sont ses propres attentes à lui.
Ouais.
Je serais curieux de savoir à quoi il s'attend et quel résultat serait satisfaisant. Évidemment qu'un joueur de tennis à ce niveau, vous le savez les gars, il veut gagner, puis tu n'es pas dans cette position-là si tu penses que tu ne peux pas gagner chaque match. Mais ultimement, exact. Avec ce qu'il a vécu, avec les conditions que lui seul connaît puis à quel point il se sent bien, je serais vraiment curieux de savoir lui à quoi il s'attend. Tu sais.
C'est une excellente question et on verra. Est-ce que certains nous autres, on va dire comme ça, on s'attend peut-être à passer le premier tour, mais ce ne serait pas surprenant non plus s'il ne passait pas le premier tour. Passons à Chapovalov. Commentaire général, Hugues, à quoi t'attends-tu de Chapovalov? As-tu même des attentes compte tenu de sa saison?
Ben, c'est un peu la même situation pour plusieurs joueurs et joueuses canadiennes sur Wimbledon. C'est un moment pour peut-être une rédemption, une relance sur la saison 2023 qui est somme toute décevante pour plusieurs de nos joueurs là au moment où on se parle aujourd'hui, le 3 juillet, premier tour de Wimbledon. Il joue contre Albot au premier tour. 25e favori quand même, Denis, 26e. Saison décevante. Là, on sait qu'à la race, il est plutôt autour du 50e rang là en ce moment, donc ce qui est plus les réalités de son jeu. Un tour à la fois, tant pour Félix, pour Denis que pour Miloš dans ce Wimbledon. Donc, pas trop d'attente pour Chapovalov. Il y a beaucoup de points d'interrogation pour nos joueurs et joueuses en ce moment, donc c'est difficile pour moi de me prononcer.
Nico?
Je veux pas avoir l'air du gars qui veut absolument revenir sur sa prédiction début de saison, les gars.
Tu reviens dessus.
Mais dans le sens que j'ai vraiment l'impression, puis vous serez d'accord avec moi là-dessus, que si Chapeau a un tournoi pour se remettre en selle, c'est celui-là. Il aime les grands moments, il est bon sur gazon, c'est une surface qui lui va bien, il aime Wimbledon. si ça va pas bien à Wimbledon, ça sera difficile de revenir au courant de la saison. Je pense que si là, son tournant pourrait être, je pense, au cours des deux prochaines semaines. Je ne vous dis pas encore là qu'il va gagner le tournoi ou encore moins qu'il va franchir plusieurs étapes au cours de la deuxième semaine. Mais néanmoins, je suis convaincu que si Chapeau doit rebondir, c'est maintenant.
Ben, ça se pourrait, écoute. Mais
ce ne sera pas simple. Mais ce sera pas simple.
Ben, ça sera pas simple parce que... Ben, OK. Ça voudrait dire quoi rebondir pour toi? Mettons, tu le verrais aller jusque où dans ce tableau-là, mettons?
Pour moi, si Chapeau survit jusqu'en deuxième semaine, c'est réussi.
Ah, ben là, oui, assurément. S'il passe à deuxième semaine, on va dire mission accomplie parce que, écoute, quand tu regardes déjà les deux premiers tours et les trois premiers tours, ça va être compliqué.
C'est des pièges.
Albot au 107e rang mondial, c'est prenable, mais il a une fiche de 1-1. Il a déjà perdu contre lui. Alors, c'est un adversaire qui peut le battre. Après ça, au deuxième tour, bon, tu aurais peut-être un Grégoire Barrère ou un Lloyd Harris. Et Lloyd Harris, ben, il a pas une bonne fiche contre lui, en dépit du fait qu'il l'a battu la semaine passée, là, à Halle, ce qui est peut-être la bonne nouvelle dans les circonstances, mais c'était quand même la première fois qu'il battait en quatre rencontres. Alors, déjà, au deuxième tour, ça pourrait être compliqué. Puis au troisième tour, ben, t'as potentiellement un Casper Ruud dans les pattes qu'il n'a jamais battu. Alors, s'il se rend déjà au quatrième tour, on va dire mission accomplie, pas à peu près, ça, c'est,
ben
ça,
oui.
C'est 100% sûr.
Puis, oublions pas que Casper Ruud est peut-être prenable parce que sa préparation s'est faite en jouant au golf sur le gazon. Donc, on voit qu'il y avait une préparation un peu légère à Wimbledon. On sait que ce n'est pas sa surface préférée à Casper Ruud. Mais encore une fois, Shapovalov, comme l'a dit Nico, est un gars de grands événements, de grandes scènes. Il a dit aux journalistes du Globe and Mail, Kelly, qu'il était quand même heureux et content de là où il se trouve, même s'il ne gagnait pas comme il le souhaite en ce moment. Fait qu'il est peut-être plus, comment dire, apaisé au niveau moral. Peut-être que ça peut le servir. Et si les choses se mettent en place pour Denis, ben encore une fois, c'est un joueur qui peut faire des dommages là, sur un tableau.
Et pour en revenir à Casper Ruud, je suis d'accord avec toi qui, quant à moi, il reste quand même un certain point d'interrogation. Parce que oui, il a connu un bon Roland-Garros. Oui, il a connu un bon, je dirais, deux semaines là, avant Roland-Garros également, là, que ça n'a pas été si mal. Mais il reste que quand tu regardes sa saison sur l'année au complet, bon, peut-être qu'il est relancé, mais peut-être pas. Tu sais, s'il s'enfarge dans les premiers tours à Wimbledon, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont être surpris ici et dans le monde du tennis non plus. Mais il reste que c'est un des meilleurs joueurs au monde. S'il fallait que Chapeau le battre, ben écoute, quand tu regardes ça, là, s'il faut qu'il batte Casper Ruud, le quatrième tour pourrait être très prenable là, parce que le meilleur joueur classé là, c'est Borna Koric et où il y a des Richard Gasquet ou des Bautista Agut, là, mais c'est des joueurs que Chapeau pourrait prendre dans une bonne journée sans problème. Alors oui, s'il fait une deuxième semaine, ce sera déjà mission accomplie.
N'oubliez pas les gars aussi que Chapeau, c'est un gars qui se nourrit du sang de ses adversaires. C'est-à-dire que plus il gagne dans un tournoi, plus il prend confiance, plus il prend du momentum. La foule adore Chapeau également à peu près partout sur le globe. Fait que je suis convaincu que s'il engrange une, deux, trois victoires, ça va être difficile de l'arrêter.
Nico, tu veux nous rappeler ta déclaration de début de saison pour Shapovalov?
Que Chapeau, ça va être une saison de transition. C'est ce que j'avais dit, je pense.
Nico, ment pas à nos auditeurs. Il avait déclaré que c'était l'année de Shapovalov, qu'il allait compétitionner avec Novak Djokovic pour les quatre grands chelems sur la même
année. Il reste encore six mois.
Exactement. La saison est encore jeune, messieurs.
Elle est plus si jeune que ça quand même. Mais effectivement, ce serait une bonne place pour se reprendre et qui sait connaître une bonne fin de saison. Et s'il fait un bon résultat ici et que ça le lance pour la fin de saison, ben, peut-être qu'on aura un bilan de saison. On dira ben, au final, ça n'aura pas été si mal. Regardez, Félix, sa fin de saison a fait fois tout l'année passée. Bon, il a eu des bons grands chelems, mais quand même, la fin de saison qu'il a connue, si Chapeau a une fin de saison qui est similaire à ça, on va dire qu'il aura connu une saison exceptionnelle en dépit du fait que, alors, je suis d'accord avec toi que la saison est jeune. Bon, Félix Auger-Aliassim, au moment d'enregistrer l'émission, il est en action et Hugues, on peut pas dire que c'est une marche dans le parc pour Félix Auger-Aliassime au All England Club présentement.
J'ai envie de te répondre, comme c'est son habitude au premier tour, c'est compliqué, c'est accroché, donc perd le premier set, 7-6, donc au tie-break, 7-4. On est dans le tie-break du deuxième set au moment où on se parle, 6-4, service. Félix sert pour le set en ce moment contre Michael Moe, l'Américain. Bon, Félix, on voit quand même un taping conséquent au genou gauche. Là, on voit qu'il n'est pas 100% confortable avec son genou encore, qu'il l'a vraiment dérangé depuis quelques semaines, il l'a dit ouvertement. Donc, c'est un premier tour très compliqué quand même contre un joueur qui devrait battre normalement assez facilement. Mais il nous a habitués à ce genre de premier tour. S'il réussit à remporter ce match, il vient de gagner le deuxième set en passant. Donc, ouais, souvent, il s'en sort là, de ces matchs de premier tour de façon un peu tendue. Mais encore une fois, Félix, j'ai la même question que pour Denis. Dans quel état est-il vraiment physiquement et mentalement, Félix? Pas beaucoup de jeux, pas de préparation pour Wimbledon. On verra.
Dans le passé, on a souvent parlé des tableaux malchanceux de Félix. Là, honnêtement, ce n'est pas le cas. Non. Il a un tableau très prenable. Tu le vois aller jusque où, Nico? C'est quoi ton feeling pour Félix dans ce tournoi-là?
Mais je ne veux pas me répéter, les gars, mais pour moi, si Félix, puis je ne veux pas avoir l'air du gars qui fait les attentes trop basses, là, mais pour moi, une deuxième semaine, c'est réussi. Compte tenu de son historique, les gars, cette année, là, il joue pour 500. Pour un gars du top 10, top 15, puis potentiellement d'un top 5, top 3, c'est inadmissible. Oui, il y a un contexte. Oui, il y a les blessures. Pardon. Mais ultimement, Félix, dans les conditions, Hugues l'a dit, il est arrangé comme une momie présentement. Une deuxième semaine, puis je suis convaincu que pour lui aussi, puis on l'a vu dans les conférences de presse qu'il a données au cours de la semaine, avait pas l'air méga confiant. Il a même dit, je pense que je vais gagner Wimbledon un jour. Mm-hmm. Il n'a pas dit cette année, il n'a pas dit qu'il était contender pour cette édition-ci. Alors pour Félix, pour le contexte, une deuxième semaine, pour moi, c'est mission réussie.
Ouais, surtout que sa préparation sur gazon a été nulle. Bon, il s'est inscrit à un tournoi, il n'a pas joué. Dans quel état il est dans ce tournoi-là, c'est surtout ça la question dans le cas de Félix Auger-Aliassime. Quand je disais que son tableau, il était prenable, ben écoutez, Michael Moe au premier tour, c'est autour de la 120e place mondiale. S'il fallait qu'il remporte ce match-là, qui est très prenable, ce serait Marterer, 170e mondial. Encore une fois, ce serait particulièrement prenable. S'il fallait qu'il se rende au troisième tour, ben le joueur le mieux classé dans ce troisième tour-là, c'est Bublik. Bon, Bublik a connu quand même une préparation intéressante sur gazon. Là, on sait, on en a parlé dans les dernières semaines. Mais il reste que c'est un joueur prenable pour Félix. Félix est un meilleur joueur que Bublik sur une année complète. Alors, un quatrième tour, ce serait prenable. Nico, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben, c'est ça qui est dommage, puis je reviens à ce que tu disais. C'est tellement un bon tableau pour Félix. Pour vrai, les gars, j'ai pas souvenir d'un tableau du Grand Chelem aussi adéquat et, entre guillemets, facile pour Félix.
Prenable, disons-le comme ça, prenable, plus que facile.
C'est ça, exactement. Là. Donc, c'est dommage qu'il soit affecté, diminué, parce que vraiment, on s'entend que Félix, à 100% et en confiance, on parle d'un quart de finale presque aisément dans ce tableau-là.
Ouais, à la différence qu'il aurait Roublev au quatrième tour. Là,
mais sur gazon, Félix est supérieur avec son service, on s'entend. Si tous les éléments
sont réunis pour Félix contre Roublev. Mais oui, non, mais en même temps, si l'Italien est les quarts de finale, il n'y a personne. Si Félix bat Roublev demain matin, il n'y a personne qui tombe en bas de sa chaise.
Non, c'est exact.
Est-ce que tu vois une deuxième semaine, toi, Hugues? Est-ce que ce serait ton standard de satisfaction?
Écoute, avec son tableau, là on voit que Martender, là, de l'autre côté, a gagné son match, qui est un qualifié. Ouais. Donc, ça sera l'adversaire potentiel de deuxième tour de Félix. Effectivement, c'est un tableau facile, je vais le dire, pour lui, là, pour un 11e favori. Les deux, trois premiers tours, là, c'est quand même ce qu'il y a eu peut-être de mieux depuis longtemps sur un tournoi d'importance. On disait qu'il y a eu des joueurs compliqués durant le Sunshine Double, par exemple, à Miami Indian Wells. Mais là, si jamais il passe pas à travers ses deux premiers tours, il pourra peut-être se rabattre sur son genou. Mais s'il est en forme correcte, je dis même pas en excellente forme, il devrait, je l'espère, se rendre au premier week-end là, et sûrement deuxième semaine. C'est maintenant ou jamais, là.
En même temps, je lui ai pas parlé récemment, mais j'ai l'impression que si c'était pas Wimbledon, il aurait peut-être pas joué le tournoi. Là. Il est tapé de haut en bas. Bon, il a déclaré forfait dans les derniers tournois également. Alors, je pense qu'il joue.
Ça fait plusieurs semaines. Hein? Moi, je serais curieux de savoir c'est quoi sa blessure, là. Parce que généralement, en un mois, une entorse, t'es remis, là. Un ligament un peu étiré, pas déchiré, ça devrait aller. Fait que j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus, là.
Enfin, on verra. Messieurs, on va faire une courte pause et au retour, on va regarder ce qui va se passer du côté des femmes.
La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente@hotelmontville.com. Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente@hotelmontville.com.
Deuxième bloc de l'émission, on va regarder ce qui va se passer du côté canadien, du côté des femmes spécifiquement. Commençons avec Leila Annie Fernandez. Hugues, est-ce que tu t'attends à elle aussi une ressurgence? C'est un peu le thématique, c'est un peu la thématique pour à peu près tous les Canadiens. Là.
Comme je disais au début, une première moitié de saison compliquée pour nos Canadiens et Canadiennes. Un peu d'espoir avec Bianca. Avant qu'elle se blesse à Miami, retour encourageant sur terre battue, mais ça a quand même été de courte durée. Je tiens quand même à dire qu'on a 4 filles dans le tableau principal. Il faut le souligner, là, notamment la belle qualification de Carole Zao. Pour elle, c'est un accomplissement. Là, ça fait vraiment plaisir de voir Carole dans le tableau. Évidemment, Rebecca Marino, Bianca Andreescu qui vont toutes commencer demain. Leila qui vient de remporter son match de premier tour à l'instant même, un match accroché en 3-7 contre Koziova, ukrainienne. Voilà, c'est fait pour Leila. Belle bagarre encore une fois. Puis on sait que Leila, puis elle nous l'a dit, hein, elle n'est pas contente de ses résultats jusqu'à maintenant. Elle est très claire par rapport à ça. Donc, elle aussi est en recherche de résultats en ce moment à Wimbledon et c'est le meilleur endroit pour le faire. Mais même chose que pour les garçons, je souhaite une deuxième semaine à Leila Fernandez. C'est ce que je peux lui souhaiter de mieux en ce moment.
Nico?
À peu près la même chose, puis tu l'as dit, c'est un thème récurrent chez les Canadiens cette saison. On se fera pas de cachette, c'est une saison difficile pour les Canadiens. Ouais. Probablement la plus difficile depuis qu'on a commencé le podcast. T'sais.
C'est vrai.
Alors, pour Leila, comme Hugues l'a dit, c'est d'enchaîner les victoires. Elle l'a fait en double. Peut-être que ce momentum-là va pouvoir l'aider un peu dans ce tournoi du Grand Chelem, vu qu'elle a joué.
Les volées sont à point.
Exactement.
Les volées doivent être à point.
Sur le gazon, parlez-en à Roger Federer, c'est payant des volées sur gazon. Ouais. Alors oui, un peu que je copie-colle ce que dit Hugues précédemment.
Et un peu à l'instar de Félix, ben Leila, elle a quand même un tableau très, très, très prenable là, selon ses standards quand tu regardes les 2, 3, même 4 premiers tours. Là, elle a gagné son match de premier tour. Au deuxième tour, elle aura potentiellement une Buzkova ou une Kontaveit dans les pattes. Kontaveit, elle est classée pas mal plus loin là pour l'instant, mais on sait à quel point c'est une excellente joueuse. C'est Buzkova qui est la mieux classée. Elle a une fiche de 0.
Qui a annoncé sa retraite, Kontaveit. Hein, c'est son dernier tournoi aussi, il faut le dire.
Alors, on souhaite à Leila peut-être de mettre fin à la carrière de Kontaveit, pourquoi pas.
Les gars, que Leila Annie Fernandez, c'est une finaliste de tournoi du Grand Chelem. Mm-hmm. Ça aussi, les gars, ça fait partie de l'équation. Ce qu'il faut pour le faire. Elle a ce qu'il faut pour le faire.
Alors, elle a le caractère, c'est certain.
Exact.
Oui.
Mais tu sais, quand on regarde le tableau, oui, Buzkova est une bonne joueuse, mais c'est une fille au troisième tour qu'elle pourrait très bien battre Leila. Et au quatrième tour, les joueuses les mieux classées, c'est Kudermetova. Bon, elle est classée 12e, mais quand même, c'est une joueuse que Fernandez, dans une bonne journée, peut très bien battre. Il y a une Sloane Stephens qui est une championne de Grand Chelem dans cette partie de tableau-là, mais elle est 3-0 contre Sloane Stephens. Alors, écoute, jusqu'au quart de finale où elle affronterait peut-être une Jessica Pegula, c'est prenable pour Leila. Alors, est-ce qu'on a raison d'avoir peut-être des attentes, les attentes les plus élevées pour Leila Annie Fernandez?
Attention, là, elle est contre Caroline Garcia au deuxième tour, Alex.
Ça, il faut en parler parce que Caroline Garcia, c'est effectivement. Au deuxième tour, ça sera pas simple contre Caroline Garcia. Mis à part Garcia. Elle a pas une fiche dans les dernières rencontres reluisantes contre Garcia. Mais Garcia, elle est pas la même joueuse qu'elle était en fin d'année l'année passée.
C'est vrai. J'aurais dit.
Mais si elle peut battre Garcia, ça serait très prenable comme tableau.
Oui, ça serait un bon match baromètre. Effectivement, on sait que Garcia, au niveau émotif, des fois, de la difficulté à gérer certains moments. On sait que Leila ne craque pas dans les grands moments sur les grandes scènes. Finaliste en Grand Chelem, on le sait, au US Open. Donc, elle est prête. Elle va se nourrir de cette énergie-là sur le central. Je m'attends à ce qu'elle ait un bon soutien de la foule aussi dans son match contre Garcia. Et si jamais elle pouvait passer Garcia, ben là, tout serait possible après.
Exact. Nico, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais je suis en train de regarder la fiche. Et c'est 2-0 en faveur de Garcia lors des deux affrontements. Mais c'est vrai que Hugues le dit que Garcia, qui était, je le rappelle, sa préférée l'an passé, faut-il le rappeler?
Avec raison, quelle fin de saison elle a connue.
Complètement. Connaît des moments un peu plus difficiles. Donc, pour Leila, c'est peut-être le moment d'aller chercher cette première victoire, justement, dans un momentum. Et tantôt, on parlait de Chapeau qui se nourrit de ses victoires. Leila aussi. Imaginez un instant, si elle devait se défaire de Garcia, le momentum et la confiance qu'elle pourrait avoir et acquérir de cette victoire-là. Ce serait fantastique. Ce serait fantastique.
Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Hugues?
Non, non, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est un match. Ce match-up est confirmé. Là, les deux joueuses ont remporté leur premier tour ce matin. Leila doit arriver dans ce match-là en se disant c'est peut-être le point tournant de ma saison. Là. Fait que je pense que ça va être un match extrêmement bien disputé demain. Et je pense, je le répète, je pense que le double que Leila joue très bien depuis quelques semaines risque de lui servir dans son match contre Garcia demain. Et peut-être que le moment qu'elle vivra, j'aime pas trop les hypothèses et les suppositions, là, mais je pense que le contexte là, pourrait peut-être la favoriser là, pour son match contre Garcia.
Feeling sur Bianca Andreescu. Nico, je commence avec toi.
Ça a été plus difficile que ce que j'aurais pensé sur gazon au cours de cette période de préparation pour Wimbledon. On avait vu de belles choses à son retour sur terre battue. Bianca, j'ai de la misère à la saisir présentement, parce que le gazon, pourtant, est une surface sur laquelle elle devrait être bonne, étant donné son jeu rapide, ses accélérations, sa manière de prendre la balle très tôt dans le rebond également. Mais c'est difficile pour Bianca Andreescu. Pour moi, c'est la carte joker de ce tournoi-là du côté des Canadiens et des Canadiennes, parce que je ne sais tellement pas à quoi m'attendre. D'un côté, je me dis, elle a ce qu'il faut pour y parvenir, elle a le caractère, si elle est en santé, elle est capable de battre à peu près n'importe qui. Mais de l'autre, je regarde cette dernière semaine, ça a été difficile, ça a été décevant. Donc, j'ai de la misère là, à me positionner compte tenu de justement du contexte et du fait que, oublions pas que Bianca était quand même très longtemps en pause, ses blessures, est-ce que tout est beau aussi de ce côté-là? C'est peut-être ça qui lui a nu au cours des dernières semaines sur gazon. Bref, pour moi, Bianca, c'est la carte joker chez les Canadiens cette semaine.
Oui. Écoute, Bianca contre Anna Bondar, la Hongroise au premier tour, c'est une adversaire qui est prenable sur papier, mais Bianca n'a pas semblé avoir ses repères. Hein. On l'a vu un peu rigoler sur les réseaux sociaux en disant « la saison de terre battue n'est pas terminée parce qu'elle glissait sur le gazon, elle n'avait pas l'air d'avoir trouvé ses repères et son footing et son timing sur gazon. Donc, je pense qu'elle ne doit pas avoir un niveau de confiance très élevé en son jeu en ce moment. Mais si Bianca, si les choses tombent en place, elle est en forme, elle est pas blessée. Donc, moi, j'ai toujours espoir que Bianca fasse un parcours qui peut l'amener très loin sur un tableau. Elle a le jeu pour le faire. Et son jeu puissant, son service qui fonctionne bien, qui lui donne beaucoup de points faciles normalement, ça devrait être une bonne chose pour elle sur gazon. Donc, je reste toujours... plutôt optimiste pour Bianca Andreescu.
Ouais, je vais être le downer de la gang parce que moi, quand je regarde son tableau, j'ai malheureusement pas beaucoup d'espoir si je me fie à comment ça s'est passé, sa préparation sur le gazon. Et bon, il y a toujours un méga point d'interrogation, même si elle enchaîne des matchs en cas de Bianca Andreescu, à savoir son état de santé. Bon, Bondar, c'est prenable au premier tour. Assurément, c'est la 110e joueuse mondiale. Au deuxième tour, tu aurais possiblement une Kalanina là, dans les pattes qui est 26e. Elle a jamais joué contre elle. Déjà, dès le troisième tour, tu aurais une 11 Jabeur. Et s'il fallait qu'elle passe 11 Jabeur, et là, c'est pas chose faite, elle aurait probablement une Vitova dans les pattes qui joue très bien présentement. Alors, si elle passe un quatrième tour, on va dire mission accomplie. Nico, je te vois rire. Pourquoi tu ris?
Ben écoute, là, tu as 11 Jabeur qui est depuis 3 ans l'une des favorites à chaque édition. Ouais. Puis tu as Vitova, on y reviendra, qui, selon moi, connaîtra un grand tournoi. Fait que si Bianca réussit à battre ces deux filles-là, les gars, on arrête le podcast. On n'a plus d'affaires à commenter le tennis.
On va en faire un de plus.
Oui, c'est ça.
On va célébrer la victoire.
Exact.
Ouais. Restons positifs. Écoutez, les deux premiers tours, mais moi, je m'attends à un troisième tour. Et tant mieux si elle va plus loin. Mais si on se fie, si le passé est garant de l'avenir, là, et le passé récent particulièrement, j'ai l'impression que ce sera compliqué pour Bianca Andreescu parce que son tableau n'est pas simple. Tu en as parlé au début du bloc sur Wimbledon, Hugues. Carole Jao, qui s'est qualifiée, c'est une des joueuses que j'ai apprécié le plus. Ça fait longtemps que je la connais, moi, Carole. Une ancienne championne de Grand Chelem en double junior. Elle avait gagné l'Australie, si je me souviens bien. Elle a aussi, toi qui viens de cette région-là, Hugues, déjà remporté en double Challenger de Granby. Je sais pas si tu savais ça. Oui. Elle l'a déjà remporté. Et puis, écoute, qu'elle se qualifie, Carole Jao, c'est pas une fille dont on parle beaucoup, mais elle a accompagné à quelques reprises l'équipe de la Fed Cup partenaire de frappe là, ou comme joueuse suppléante. C'est une fille qui a beaucoup d'armes, qui est une excellente joueuse de double également, comme je le disais. Oui. Et c'est une belle qualification pour elle. Et ben elle peut déjà dire mission accomplie, Hugues.
C'est sa première présence dans le tableau principal de Wimbledon. Donc bravo pour Carole Zhao. Elle est quoi? Elle est 131e mondiale en ce moment. C'est quand même une joueuse qui... Elle a 28 ans. Hein. C'est quand même une vétérane, mais c'est pas une joueuse qui est en fin de carrière. Donc, ça va lui donner un petit boost de motivation, je suis convaincu. Et Carole Zhao, pour ceux qui la connaissent, nous, on l'aime beaucoup, beaucoup au Canada, au podcast aussi, pour ceux qui l'ont suivi là, dans ses activités. C'est une fille extrêmement drôle, une musicienne chevronnée aussi, une fille vraiment, vraiment intéressante. Là, c'est une personnalité vraiment agréable, Carole Zhao, et c'est vraiment du bonheur de la voir se qualifier pour le plus grand Grand Chelem de la saison.
Et visiblement, le gazon, c'est une surface qui, lui, va bien cette année parce que, bon, on parle de cette qualification-là à Wimbledon, mais elle s'était qualifiée également aux Pays-Bas et avait fait un deuxième tour. Oui. Et dans ce tournoi-là, elle avait battu Yasleen Bonaventure, là, qui est pas une mauvaise joueuse du tout. Alors, écoute, elle est probablement en confiance au moment où on se parle. Elle a peut-être les meilleurs résultats de sa carrière sur gazon, ou du moins des dernières années. Nico, content de voir cette jeune vétérane éclore sous les yeux des fans londoniens.
Ouais, puis tu sais, les gars, on en parle souvent ici au podcast. Au-delà de l'aspect purement sportif, n'oubliez pas à quel point la bourse qui est remise, non, c'est juste pour un premier tour, là, pour une fille qui est 166e mondiale, à quel point ça peut être salvateur et névralgique au cours d'une saison. Une bourse pareille qui doit être autour de j'imagine autour de 10 000 $, un truc du genre. Là. Ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, pour elle, c'est déjà, comme Hugues l'a dit, c'est déjà mission accomplie.
Rapidement sur Rebecca Marino. Elle affronte Bégaud au premier tour. C'est la 30e joueuse mondiale, mais c'est une joueuse qui a bougé beaucoup dans les classements de haut en bas dans les dernières années, Bégaud. Je pense que c'est prenable pour Rebecca Marino. À quoi s'attendre, Nico? Je commence avec toi.
Comment dire? Ce serait le temps pour Rebecca de vraiment y aller all-in. C'est-à-dire qu'à chaque tournoi où Rebecca est présente, on se dit un premier tour, deuxième tour, ce serait suffisant. Mais là, j'ai vraiment l'impression que pour Rebecca, pour avancer dans le tableau, pour prendre confiance, pour vraiment jouer au plein potentiel, ça prendrait quelques victoires en Grand Chelem. Elle est capable de le faire. Immense serveuse. Le gazon, c'est sa chance de briller. Ce serait le temps pour Rebecca d'avancer un peu plus en tournoi du Grand Chelem et de la faire. Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est Wimbledon, je sais que les meilleurs joueurs y sont, mais ce serait chouette cette semaine que Rebecca puisse gagner au moins 2 ou 3 matchs.
Ouais. Moi, si elle gagne 2 ou 3 matchs, elle aura battu Sabalenka. Là. Déjà 2 matchs, ce sera pas pire.
Oui, tu as raison.
Moi, je pense qu'elle va aller chercher ce premier tour. On se l'est dit souvent, Rebecca, c'est quand même une mission accomplie quand elle passe un tour ou deux dans des tournois de première importance, notamment en Grand Chelem. Puis juste pour vous donner le chiffre précis, c'est 70 000 $ quand même US, les joueurs de premier tour. Donc, tu perds le premier tour, tu rapproches quand même 70 000 $, presque 100 000 $ canadiens. C'est quand même considérable sur une saison. Ça peut faire une grosse différence. Donc, Ça fait plaisir, encore une fois, pour Rebecca, pour Carole Zhao, là, de les voir aussi pouvoir engranger un bon prize money en ce moment.
Non, exact. Quand on regarde son tableau, elle, à Rebecca, écoutez, elle affronte Bégaud, j'en parlais, au deuxième tour, ce serait possiblement prenable aussi, peut-être une Blinkova à 40e place mondiale, ou une Vic Maillard, là, une fille vétérane du circuit, elle a une fiche gagnante contre la 112e joueuse mondiale. Au troisième tour, c'est là que ça se complique. Là. Elle aura probablement Sabalenka dans les pattes, et moi, Sabalenka, je l'ai championne du tournoi, je vous l'annonce, je vais vous demander dans pas long vos prédictions, mais je pense pas qu'elle va battre Sabalenka. Si oui, elle va détruire mon tableau du côté des femmes.
Je pense qu'elle va détruire beaucoup de tableaux, Alex. Je pense que tu ne seras pas le seul.
Ben écoute, je nous le souhaite, là, tu sais, je veux dire, je l'aime bien Sabalenka, mais je préférais que Rebecca Marino engrange une victoire. Enfin, ce sera pas simple. Messieurs, juste rapidement, là, quelques matchs de premier tour à suivre. Je veux pas qu'on s'étende trop longtemps là-dessus, mais Tim, Titi passe au premier tour, est-ce que ça vous allume?
Oui. Très match popcorn de premier tour. Je pense qu'en fait, on a deux joueurs qui sont reconnus pour leur qualité, un peu plus sur terre battue que sur gazon. Moi, je donne pas cher de la peau de Tsitsipas en ce moment. J'ai l'impression que son histoire d'amour avec Paula Badosa prend beaucoup de place en ce moment dans les médias. On dirait que c'est un feature pour Netflix qu'ils sont en train de faire. On peut suivre toute leur pérégrination sur les réseaux sociaux pour ceux qui regardent ça un peu. Nous, on suit parce que on pense à notre collègue Nicolas Richard qui attend seulement que ce couple-là soit séparé. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon. J'ai pas l'impression, tant pour Badosa, en fait, que Tsitsipas, la préparation est si bonne que ça. Donc, on verra. Mais attendons-nous à un match intéressant en team Tsitsipas. C'est certain un match que je vais regarder.
Nico, dommage pour toi. Badosa sera à Montréal quand tu seras à Toronto. Si jamais tu veux changer d'affectation,
il y a une mauvaise assignation.
Non. Je vais devoir narguer Stéphanos tout du long. Alors,
fais-y des yeux méchants. non, c'est un match de premier tour quand même intéressant parce que Tim a eu quelques flashs intéressants dans les dernières semaines. Andy Murray contre Peniston, ben Andy Murray, c'est ça. Je l'ai mis là parce que c'est simplement Andy Murray et chaque match d'Andy Murray est intéressant. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire vraiment plus. Et du côté des femmes, Sofia Kenin contre Coco Gauff, ça c'est un match intéressant honnêtement. Ouais.
Gros challenge pour Coco Gauff là. Kenin. Gagnante de Grand Chelem aussi, c'est une fille qui sait jouer au tennis. Coco Gauff qui, encore une fois, c'est comme un peu avec Félix. On se dit, ouais, bon, elle est prête, c'est quand sa grande victoire? On sait qu'elle a fait la finale de Roland-Garros l'an passé, mais la pression commence à être de plus en plus élevée sur une Coco Gauff. Et c'est le genre de match piège contre Sofia Kenin au premier tour.
Et ce n'est pas un match de premier tour, mais c'est un potentiel deuxième tour. Et
là, deuxième tour.
Non, Kenin Gauff, ça va, mais j'allais enchaîner sur une autre rencontre. Et là, Nico, ça va te faire plaisir parce que on a un potentiel deuxième tour, Badosa Sakkari. Honnêtement, c'est un méchant match de deuxième tour, ça, là.
Vraiment, ouais. Badosa qui joue pas évidemment avec son classement, là, c'est-à-dire qu'elle a tellement eu de difficultés puis de blessures dans les derniers mois que son classement ne fait pas foi de son talent. Là, donc ça donne ce genre d'affrontement-là entre Sakkari et Badosa qui sera évidemment un match popcorn. On reviendra là, dans quelques instants sur nos prédictions. Comme Hugues l'a dit, j'ai l'impression que Badosa et Stéphanos Tsitsipas présentement, c'est pas une distraction parce que j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, mais ça reste quand même que les résultats ne sont pas là présentement. Et qu'il se passe beaucoup de choses autour de ce couple-là. Je ne sais pas à quel point ça peut être bon ou mauvais, mais je n'ai pas l'impression que Badosa est dans ses bottines depuis le début de la saison. À voir, parce que sur gazon, elle est excellente. On l'a un peu découvert là, rappelez-vous, à Wimbledon, il y a 2 ans. Mais Sakkari aussi est tellement dans une classe à part, puis c'est le moment pour elle de briller aussi.
Là. C'est sérieux, les gars. On dirait qu'ils sont en pique-nique dans la campagne anglaise en ce moment, là, Tsitsipas et Badosa. Ils s'entraînent ensemble, c'est le fun. Est-ce que c'est suffisant? Je suis pas certain. Donc moi aussi, pour les deux, je me pose des questions en ce moment. Peut-être que tout ça n'est qu'un front et que derrière, ils travaillent vraiment fort puis ils sont dans une bonne position. Mais ce qui transparaît de leurs activités en ce moment, en tout cas, c'est une histoire d'amour, puis je suis content pour eux, hein, c'est le fun. Mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur quand tu es à quelques jours de Wimbledon.
Messieurs, en une minute, votre gagnant et votre gagnante, et pourquoi? Hugues.
Je souhaite la finale Djokovic-Alcaraz. Je pense que Djokovic va gagner ce tournoi-là. Il va poursuivre sur sa route vers un grand chelem calendrier. Il va rattraper Federer avec 8 titres. Va rattraper Margaret Court avec 24 victoires en grand chelem. Et je crois que Sabalenka est prête pour gagner Wimbledon cette année après avoir gagné en Australie. Et les enjeux par rapport à la guerre en Ukraine, elle met ça de côté. Vous m'en parlez pas durant Wimbledon. Vous avez mon statement, ça m'intéresse pas. Je pense que Sabalenka, elle est concentrée et je la vois comme potentielle gagnante. C'est mon choix. C'est mon choix.
Nico?
Ce ne sera pas tellement long. J'ai les mêmes gagnants qu'Hugues. Cependant, Djokovic, je l'ai en finale contre Tiafoe, qui a rebattu au passage Carlos Alcaraz.
Intéressant.
Et, et aussi Sabalenka, qui c'est son tournoi. Rappelez-vous, l'an passé, elle n'a pas pu jouer. Je pense qu'elle a le couteau entre les dents et elle battra donc en finale une certaine Coco Gauff, qui à un moment donné va gagner son grand chelem, mais ce ne sera pas cette année.
Honnêtement, un jour, je vais faire un montage de tous les fautes de placer Coco Gauff en finale, il t'a dit ça. D'après moi, dans les 8 derniers grands chelems, ça ressemble à ça. Mais un jour, tu auras raison, je suis assez convaincu de ça, et peut-être plus d'une fois.
Coco Gauff nous coûte cher dans nos pots.
Ça, c'est tout à fait vrai. Moi, je vais y aller avec Sabalenka. J'avais déjà annoncé mes couleurs et je m'attends à une autre finale Sabalenka-Swiatek. Je pense pas que Rybakina va défendre son titre. Je pense que même si on parlait d'un Big Three il y a pas si longtemps, en ce moment, les deux meilleurs joueurs sont Swiatek et Sabalenka. Yes, Hugues?
Guys, j'aimerais ça qu'on se nomme un flotteur du côté féminin et du côté masculin. Je pense que Nicolas l'a un peu dit avec Tiafo côté masculin, mais j'aimerais ça vous entendre quand même.
Pour le féminin, moi, c'est Kvitova qui va tomber en demi-finale contre Sabalenka. Elle joue tellement bien, les gars. Finale, en fait, titre à Miami, quart de finale à Indian Wells. Elle a gagné ce tournoi-là deux fois. Donc, Kvitova, pour moi, sera un peu la surprise de ce tournoi-là, même si elle est 9e tête de série. Mais je pense pas qu'en début de saison, il y a beaucoup de gens qui l'attendent à ce niveau-là.
OK, ben dans ce cas-là, est-ce que Rybakina peut être considérée comme un flotteur? Parce que c'est quand même une des meilleures joueuses à championne en titre dans ce cas-là. Et toi, t'aurais qui du côté des hommes et du côté des femmes, Hugues?
Moi, je vais prendre Kvitova aussi du côté des femmes. C'est pas original, mais effectivement, déjà deux victoires à Wimbledon. Elle est en pleine forme maintenant avec l'expérience en plus. Donc, pourquoi pas une Kvitova qui viendrait surprendre tout le monde. Du côté masculin, j'ai plus de difficultés à mettre quelqu'un en dehors de Alcaraz et Djokovic. Mais écoutez, je vais quand même faire une prédiction folle. Medvedev va surprendre tout le monde et aller chercher Wimbledon.
Intéressant. Mais dans ce cas-là, moi, je vais aller avec Siri Bakina et pas la meilleure floater, comme on dit. Je ne sais pas si Coco Gauff peut être considérée comme un floater non plus, mais enfin, elle est un peu plus basse. Mais s'il y a une joueuse qui pourrait pas surprendre en même temps, ça peut être elle. Et du côté des hommes, moi, je vais y aller avec Tsitsipas parce que je l'ai mis assez loin dans le tournoi. Il a tellement de talent. Et encore une fois, c'est peut-être un flotteur facile à prendre là, parce qu'il est tellement un bon joueur. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui le place comme champion. Mais c'est un joueur que dans une bonne journée, il peut très bien battre les meilleurs au monde. Et pour ma prédiction du côté des hommes, moi, j'avais annoncé mes couleurs déjà la semaine passée. J'avais dit Alcaraz et ce sera Alcaraz qui va battre Novak Djokovic en finale.
Ce sera intéressant, les gars. Ce sera très intéressant.
Exactement. Oui. Au retour de la pause, Hugues, tu t'es entretenu avec Valérie Tétrault. On a des nouvelles de Caroline Wozniacki.
La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente@hotelmontville.com. Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente@hotelmontville.com.
Alors, on est heureux de recevoir aujourd'hui au podcast sur la ligne la directrice de l'Omnium Banque Nationale, Valérie Tétrault. Bonjour Valérie.
Bonjour à vous deux.
Et Isabelle Étier qui se joint à moi aussi aujourd'hui pour faire le point sur les grandes annonces qu'on a eues en début de semaine. Donc, l'équité en 2027 au niveau des bourses pour les femmes. On est très content que Montréal arrive à ce stade-là. On sait que ça doit être un processus long et pas si évident que ça. J'ai hâte de t'entendre sur ce sujet-là. Puis on va parler évidemment du fait que le tournoi passe à 12 jours, donc un tableau de 96 qui nous amène dans la cour des plus grands, hein, des petits grands chelems ou des 5e, 6e, 7e tournois après les grands chelems. Donc, très, très bonne nouvelle. Tout d'abord, félicitations Valérie pour cet accomplissement quand même.
Ben merci beaucoup, non? Disons que c'était une grande journée, effectivement, hier, avec deux annonces d'importantes. Et là, on a l'impression que notre tournoi passe à un autre niveau. Donc, je vous avoue que hier, je me sentais honorée, disons, de vivre cette journée-là. Et puis, Ben oui, j'ai travaillé quand même dans le but de pouvoir faire ces annonces-là, mais tu le mentionnais, Hugues, ça a été un travail vraiment de longue haleine. Et donc, Eugène a évidemment été très impliqué dans les dernières années aussi dans les différentes discussions qui ont pu mener finalement vers cet accomplissement-là.
Pour commencer, Valérie, parle-nous de la structure, en fait, du partenariat entre ce nouvel organisme là, de WTA Ventures qui a été formé. Quelles implications ça a pour Montréal et peut-être d'autres tournois, évidemment, aussi, parce que c'est pas que pour Montréal. De la Banque nationale, évidemment, qui a joué un rôle, et du gouvernement du Canada. Comment tout ça a finalement pris ensemble là, pour arriver aux résultats qu'on connaît aujourd'hui?
Ben, je dirais que bon, du côté de Tennis Canada, hein, depuis 2021, alors qu'on a lancé le programme qui aujourd'hui s'appelle Jeux 7 Équité, avec la collaboration de Banque Nationale, la croissance du tennis féminin est devenue vraiment un pilier stratégique. Et donc, on a commencé à investir beaucoup plus d'argent, mais aussi de temps, de ressources pour s'assurer qu'on contribuait finalement à la croissance du tennis féminin. Et là, vraiment, c'est à tous les niveaux. Mais le morceau qui nous manquait, qui en était un important, c'était effectivement de pouvoir offrir des bourses égales à notre tournoi. Mmh. Et en fait, même dans les dernières années, ça s'en allait pas du bon côté parce que l'accélération ou la hausse du côté masculin était tellement importante qu'on peinait à suivre de par les ententes qu'on avait du côté de la WTA. Et ça s'explique principalement, je dirais, on parle beaucoup là des revenus commerciaux. Faut comprendre que donc, même si oui, on positionne notre tournoi comme un seul tournoi, avec le tournoi de Montréal et Toronto, l'alternance hommes et femmes, mais au final, ben, ce sont deux tournois qui sont quand même gérés différemment, structurés différemment par l'ATP et la WTA. Et ben, pour les revenus qu'on reçoit en termes de droits télé à l'international, c'est du 1 pour 10. C'est-à-dire que donc on a 10 fois plus d'argent du côté masculin en ce moment pour les droits de télé à l'international comparativement à la WTA. Et donc, ben ça se reflétait effectivement dans les bourses qui étaient offertes. Et donc, pour contrer ça, ben il fallait trouver un autre moyen, il fallait trouver une nouvelle structure, je pense, du côté de la WTA. Et ben après en avoir discuté pendant des années. Le flash est venu, je pense, lors d'une rencontre du conseil, lors du US Open de l'an dernier. Et ben, c'est un peu là qu'a commencé à naître finalement l'aventure avec WTA Venture. Donc, on a créé vraiment une nouvelle entité. Et donc, maintenant, la WTA, si on veut, va vraiment se concentrer sur la gouvernance du sport.
Oui.
Et du côté de WTA Ventures, là, vraiment, ben, ce seront tous les aspects commerciaux, que ce soit les droits télé, que ce soit les données, que ce soit même le betting, que ce soit la commandite. Et donc, le but, finalement, avec cette nouvelle entité, c'est effectivement de créer des nouveaux revenus qui vont nous permettre de réinvestir donc un petit peu plus vers les bourses qui seront données aux athlètes. Mais c'est sûr qu'avec un partenaire, là, en cette compagnie qui s'appelle CVC, qui va mettre des millions, finalement, ben ça a donné un gros coup de pouce et ça nous permet justement d'avoir un modèle financier qui se tient, qui nous permet à dire aujourd'hui qu'on va pouvoir atteindre l'équité des bourses en 2027. Mais ça prenait aussi une contribution importante des tournois, évidemment. Et c'est là où l'appui qu'on a d'un commanditaire en titre aussi fort que Banque Nationale est super important et on ne pourrait pas y arriver sans leur apport.
Tu sais, Valérie, c'est une grosse annonce. Ça fait longtemps qu'on parle d'équité. Ça fait 50 ans qu'on veut de l'équité dans la WTA. Une petite salutation à Billie Jean King là-dessus, puis on célèbre beaucoup en grand. Là, tu arrives. C'est toi qui fais l'annonce. Je sais que c'était super important. Mais explique-nous comment c'est un grand travail derrière. Justement, tu as parlé d'années, mais ça fait plusieurs années que vous travaillez à développer là, cette équité-là.
Oui, exactement. Je disais depuis 2021, ça fait partie de notre quotidien, en fait, et on y consacre beaucoup de temps. C'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que, bon, j'étais probablement encore plus fière de l'annonce d'hier de par mon passé de joueuse. Parce que c'est quelque chose qui a probablement fait en sorte, en fait, que ma carrière a potentiellement été un petit peu plus courte. Je pense que c'est là la grande différence. Mm-hmm. Si on compare les hommes avec les femmes au tennis, du moins dans mes années, il y a beaucoup plus d'hommes qui pouvaient bien vivre de leur sport en jouant donc sur le circuit, alors que chez les femmes, j'avais l'impression qu'il fallait que tu fasses partie du top 50 pour réellement bien vivre de ton sport. Et là, c'est ça qui risque de changer avec l'annonce d'hier. Donc, plus de joueuses qui devraient être capables de vivre grâce au tennis. Donc, ça permet, je pense, à la prochaine génération de pouvoir rêver à de plus longues carrières. Et ça, vraiment, je pense que Billie Jean King doit être plutôt fière aussi. Et là, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, hein, parce que cette année, on fête en plus les 50 ans de la WTA. Mais je vous assure que c'est pas quelque chose qui s'est dessiné, disons, il y a 4 ans, puis on a dit on va attendre quand même que la WTA fête son 50e anniversaire. Mais je pense que, honnêtement, c'est probablement la plus grosse nouvelle pour la WTA et pour nous depuis très, très longtemps et probablement la plus grosse nouvelle aussi des prochaines années.
Valérie, évidemment, il y a plusieurs organismes qui font face aux mêmes défis que vous connaissez. Soccer Canada, en ce moment, vit une période compliquée, on le sait. Ils viennent de sortir d'une négociation compliquée avec le volet féminin. Isabelle est impliquée dans le hockey féminin. Elle sait quels sont les défis aussi. Elle y vit au quotidien. Donc, d'un côté, tu as le discours général, on veut l'équité, on est tous pour l'équité, on croit qu'on est rendu là, c'est normal. Vous faites le même travail, vous travaillez aussi fort. Après, d'un point de vue commercial, on se dit, bon, il y a des beaux succès aussi. On regarde certaines finales WTA qui ont surpassé en grand chelem, je pense au US Open, notamment avec la finale de Leila contre Raducanu, qui a fait des meilleurs codes d'écoute que la finale masculine. La finale féminine en Australie cette année avec Sabalenka a fait des meilleurs scores que la finale masculine. Alors, c'est quoi l'écart entre ce que le commercial veut et ce que les parties prenantes doivent faire pour arriver à une équité? On se dit que ça devrait être plus près que ça, mais on voit que la marche est grande quand même.
Oui, la marche est grande. On parlait des droits tantôt de la télé à l'international, c'en est le parfait exemple. Et c'est pour ça que pour arriver à l'équité ou à l'égalité, pour moi, c'est un effort de chacun. Ça prend vraiment une collaboration de tous. Et c'est facile, des fois, de pointer du doigt et de dire, il faut que ça parte des organisateurs des tournois ou des gens qui, justement, gèrent les circuits de la WTA et l'ATP. Mais quand on y pense vraiment, ça prend, en fait, un intérêt du public, autant pour le sport féminin que pour le sport masculin. Ça prend une contribution des médias pour s'assurer que dans la couverture, encore là, on a une certaine parité. Le tennis, je pense, est un sport quand même assez choyé lorsqu'on regarde les heures de diffusion des matchs, mais c'est pas le cas pour tous les sports. Et si, donc, c'est un peu l'œuf ou la poule, hein, si on veut, évidemment, que les gens s'intéressent au sport féminin et que ça amène d'une valeur commerciale, il faut qu'on donne la chance aux gens de pouvoir s'y intéresser. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression que pour y arriver, c'est vraiment un effort collectif dont on a besoin.
Ce que j'entends, c'est que chacun a son rôle à jouer pour créer ce changement-là. Et autant les partisans, les joueurs, les joueuses, les compagnies, là, puis ça prend des partenaires qui vont investir. J'aime beaucoup dire, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Bon, le tennis, on a une belle couverture. On a la chance d'en avoir à peu près tous les jours, peu importe les canaux. Moi, j'aimerais ça t'amener sur un autre sujet. Il va y avoir une grande différence dans le tournoi. On va tomber à 12 jours, plus de joueurs et de joueuses. Comment ça aussi, ça va avoir un impact pour la qualité là, des joueuses?
Ben, c'est excitant parce que bon, il y a différentes choses dans ce nouveau format-là. Effectivement, bon, on va grossir le tableau principal, ce qui veut dire un tableau principal qui en ce moment est disputé sur 7 jours passe à 12 jours. On est tout près en fait du format qu'on voit dans les tournois du Grand Chelem. On est à peu près exactement là où se trouvent Indian Wells et Miami. Alors mm-hmm. ça, c'est intéressant. Et à partir de l'an prochain, donc avant même que le nouveau format là, vienne en 2025, le tournoi sera obligatoire pour tous les joueurs, mais pour toutes les joueuses aussi qui peuvent se qualifier pour le tournoi. Et ça, c'est un peu le changement qu'on attendait, je pense, du côté de la WTA. C'était déjà le cas du côté de l'ATP, mais ça ne l'était pas du côté féminin. Okay. Donc, j'espère que ça, déjà, ça fera une belle différence. Mais je pense que, bon, c'est disons un beau vote de confiance, assurément, pour le tournoi de Montréal qui concrétise un peu sa place là, à l'international. Parce que vraiment, là, on se distingue encore un peu plus et on fait partie d'un groupe très, très élite. Et je pense qu'au final, tout le monde sera gagnant. Assurément, les amateurs, parce qu'on pourra voir plus de tennis. Peut-être que ça permettra aussi la création de ces nouvelles séances-là d'intéresser quelques nouveaux adeptes. Qui n'ont pas encore eu la chance là, d'expérimenter nécessairement l'Omnium Banque Nationale. Et ça profitera aussi aux joueurs et aux joueuses parce que le but en ayant justement plus de tournois comme celui de Montréal qui vont maintenant se dérouler sur 12 jours, c'est de faire en sorte que on a, disons, une vie un petit peu plus saine, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de temps pour récupérer entre les matchs. On va jouer à tous les deux jours. Et on espère que lorsqu'on arrivera à la fin de l'année, on aura peut-être des joueurs qui sont, disons, un tout petit peu moins fatigués, blessés et qu'au final, justement, ça profite à tout le monde.
Val, on passe d'un tableau de 64 à 96, c'est bien ça. Effectivement, ça sera une opportunité pour des nouvelles personnes d'avoir accès au tennis. On sait que le tournoi sur sa formule une semaine battait des records mondiaux souvent en termes d'assistance. Donc comment t'entrevois ça au niveau du nombre de séances supplémentaires? Puis peut-être au niveau infrastructure, est-ce qu'il va se passer des choses aussi pour mieux accommoder ce format de tournoi?
Disons qu'il y a des beaux défis qui s'en viennent parce que c'est vrai qu'on fait presque salle comble en ce moment sur un tournoi d'une semaine. Mais pour vous donner une idée, là, on a présentement 15 séances et on s'attend en 2025 de pouvoir en ajouter 10 autres. Donc, c'est presque comme si on doublait vraiment le nombre de séances à vendre. Alors, je pense qu'il faut quand même être prudent, disons, et se donner quelques années pour voir comment le public réagit et comment on est capable, justement, de s'assurer de remplir le court central pour toutes ces séances. Il faudra s'ajuster aussi au niveau de l'horaire, hein, parce que au final, on a 3 semaines, étant donné l'horaire chargé pendant l'été entre Wimbledon et le US Open, on a 3 semaines pour compléter les tournois de Montréal et Cincinnati. Alors, il faut s'attendre à ce que notre finale soit disputée en soirée, en milieu de semaine, un mercredi ou un jeudi soir. Alors, on va changer quand même un petit peu les habitudes des gens. Et après ça, Hugues, tu fais bien de le mentionner, au niveau des infrastructures, effectivement, beaucoup plus de joueurs qui seront ici. Et là où on se compare avec les autres tournois de notre catégorie, en superficie, on est quand même un des plus petits. Donc ça fait partie de nos défis. J'ai l'impression qu'il va falloir être encore un peu plus créatif. Et d'ailleurs, un des projets qu'on a et dont la construction là, débutera quelques jours seulement après la fin du tournoi de cette année, grâce au financement, à la subvention qu'on a eue du gouvernement fédéral l'an dernier, on va construire une mezzanine. Donc, on va ajouter 2 niveaux au-dessus du court numéro 1 dans la bâtisse intérieure. Et vraiment, c'est dans le but, justement, de créer de nouveaux espaces pour accueillir ces joueurs-là. Et je peux vous dire qu'on a déjà fait l'annonce à l'ATP et à la WTA et ça a été évidemment très, très bien reçu. Les besoins sont grandissants, surtout du côté médical, en fait, pour les joueurs. Et donc, il y a assurément là, un de ces nouveaux étages-là qui sera complètement dédié à ça pendant le tournoi.
Valérie, tu parles beaucoup du futur, on parle de ce qui s'en vient, mais là, on a un tournoi cette année. On a le meilleur du tennis qui va être à Montréal. J'aime bien ce slogan. On n'est pas obligé de genrer notre tennis, on l'aime autant au masculin qu'au féminin. As-tu une petite primeur pour nous aujourd'hui?
J'ai une petite primeur. Il y a quelques mois, j'ai eu un appel surprise, mais un appel très agréable d'une joueuse avec qui personnellement j'ai joué chez les juniors, puis après ça à mes débuts chez les professionnels, qui planifie faire un retour au jeu. Et il s'agit de Caroline Wozniacki, qui a donné naissance là, dans les dernières années à deux enfants. Son appel, c'était non seulement pour me dire qu'elle planifiait faire son retour au jeu, ça fait des mois déjà qu'elle s'entraîne, mais que le premier tournoi qu'elle veut disputer, ce sera le tournoi de Montréal, un tournoi qu'elle a déjà remporté il y a plusieurs années et où elle se sent bien. Donc, elle va débarquer avec sa petite famille et ça va nous faire vraiment un très, très grand plaisir là, de pouvoir l'accueillir ici. Et je pense que le public sera très heureux de la retrouver, celle qu'on appelait Miss Sunshine, de par son sourire, peu importe la situation qui était toujours sur son visage.
Très belle nouvelle.
Tu ne le sais jamais, hein? Tout le temps des grosses primeurs que tu as nous après, oui. Des grosses nouvelles, on aime ça. Mais,
Valérie, attention là, aux attentes que ça crée, par exemple.
Mais, c'est ça, moi, je suis vraiment impressionné. Je peux dire que déjà, tu as un impact important sur le tournoi dans ta première année de gouvernance comme directrice générale du tournoi. Bravo, c'est des annonces importantes. Donc, on sent que le tennis a le vent dans le dos aussi en ce moment. Donc, souhaitons que ce momentum-là se poursuive, mais toutes les planètes sont alignées pour ça. Donc, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous aujourd'hui. Puis bravo pour ces annonces de cette semaine encore.
Un grand merci pour les bons mots et pour la bonne discussion. Puis au plaisir de vous retrouver bientôt.
À très bientôt. Merci.
À très bientôt. Merci.
Merci encore, Hugues et Isabelle, pour cette excellente entrevue et merci encore à Valérie. Elle est toujours tellement très bonne. Bien hâte de voir Caroline Wozniacki à Montréal.
C'est une chance. On est vraiment chanceux d'accueillir à Montréal en premier en vue du US Open.
T'sais, on a parlé souvent d'elle comme une des meilleures joueuses qui n'avait jamais remporté de Grand Chelem. Ça s'est fait finalement en fin de carrière. Mais tu sais, c'est une des joueuses qui aurait été une des plus populaires de sa génération, là, sans aucun doute. Oui. Nico, comme c'est la tradition, et comme tu es de retour, je te donne le lourd mandat de terminer cet épisode de Sur la ligne.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.